I'm the GOAT, the greatest of all time. The greatest of all time. Yeah. The greatest of all time.
Hell yeah.
The greatest of all time.
Oh, yeah. I'm the GOAT,
the greatest of all time.
Yeah.
The greatest of all time.
Hell yeah.
The greatest of all time.
Hell yeah.
I'm the greatest of all time.
GOAT,
the greatest of all time. The greatest of all time.
I'm the GOAT,
the greatest of all time.
Et parce qu'il ne faut pas perdre espoir, amis d'Enix, bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour un podcast hors série, spécial GOAT, mais pas n'importe quel GOAT, évidemment, le GOAT de notre franchise de cœur. Et pour cela, bien évidemment, nous avons Joanny.
Bonjour, bonjour.
Nous avons Julien.
Salut les gars.
Et nous avons deux invités. Julien Muller. Julien, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton activité et puis nous présenter brièvement ?
Eh ben, tout d'abord, bonsoir à tous. Julien, donc passionné de basket depuis bientôt 30 ans maintenant. Ça fait un peu vieux, mais bon, c'est comme ça. Et passionné, notamment d'Enix, surtout d'Enix. Et j'ai écrit quelques bouquins et je partage des petites vidéos sur Twitter. J'aime apprendre, j'aime me cultiver sur le basket et sur le sport en général et voilà. Et je suis avec Anthony qui va se présenter et qui est avec qui j'avais coécrit le premier livre qu'on avait fait ensemble.
Anthony, bonsoir.
Bonsoir à tous. J'ai commencé le basket, on va dire, de 92, donc surtout les Jeux Olympiques de Barcelone, hein, qui a été le beaucoup de monde, je pense, un déclic. Fan des Bulls à la base, peut-être un petit peu plus fan de Jordan que des Bulls, mais en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est être fan des Knicks et être fan des Bulls en même temps, c'est pas simple. Mais les Knicks, ça a commencé à peu près aussi la saison 92-93. La confrontation qu'il y a eu en finale de conf, justement, à Chicago. Après, forcément, la finale contre Houston. La génération, la partie avec Patrick Ewing, John Starks, 99. Mais il n'y a pas eu de titre au bout, quoi. Ça c'est le plus triste. Et on va dire collectionneur de matchs des années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Fan de VHS, donc.
VHS, j'ai arrêté le format quand même. Ça c'est plus Julien qui en a plein dans sa cave. Non, c'est vraiment des téléchargements que j'ai pu faire sur divers sites, on va dire, pas très, très légaux. Hein,
on les donnera pas. Mais...
Non. Mais c'est quand même grâce à ça que j'ai pu me constituer une collection vraiment très sympa.
Et sinon, tout à l'heure, Julien a évoqué le fait que vous ayez coécrit un bouquin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre ?
C'est Julien qui a eu l'idée à la base de faire cela. L'idée, en fait, c'était de faire un top 50 des meilleurs joueurs de l'histoire. En essayant d'être le plus objectif possible. Donc déjà, dans un premier temps, il fallait faire un classement. On a été d'accord, surtout, c'était le début, hein, c'était pas simple. Réussi s'échange via mail, via téléphone pour se dire, bon, là, ou un tel, on va le mettre à cette place. Et ben, il a fallu aussi s'organiser pour savoir qui c'est qui va rédiger sur tel ou tel joueur. Se concerter pour savoir, tiens, j'aurais fait comme ça, on va modifier ça, on va faire ci, on va faire ça. Donc, mais ça s'est super bien passé. Et puis, bon, bah, après, on a eu aussi, je pense, un facteur chance. Parce que, dans le but de trouver un éditeur, on avait visé, on va dire, assez haut, sans avoir, j'ai envie de dire, de gros espoirs. La première entrevue, c'était chez Talent Sport.
Ah, il y a pas mal de gros titres édités par Talent Sport.
C'est eux qui ont, on va dire, qui ont vraiment lancé depuis quelques années plusieurs ouvrages qu'ils avaient traduits directement. Enfin, Julien, il a passé un entretien avec brio, hein.
Ouais.
Et modestie.
Non, mais moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et ouais, ça s'est bien passé. J'ai été convaincant, donc c'est cool. Sincèrement, je pense pas que j'allais réussir. Et puis, au final, ça s'est fait. Donc, c'était cool. Bonne ambiance. Après, avec Anthony, comme il a expliqué, c'est vrai que le bouquin, c'est pas facile parce que se mettre d'accord. Bon, sur les 50 noms, on s'est mis d'accord sur 45 faciles. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Dans un top 50, le plus compliqué, c'est pas les top 30 parce que les noms reviennent. Après, il y a le classement. Mais pour la sélection, c'est facile. C'était voilà, à partir des places 40, là, on a commencé à devoir couper. Alors, on a eu des petites astuces. On a fait un coup de cœur. On a fait un mec recalé. Comme ça nous a fait deux portraits de plus. Donc voilà, et puis c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est voilà, c'est la passion qu'on a tous les deux et que voilà, on s'écoute, on échange, on est d'accord, pas d'accord. Je lui faisais lire un truc, il me disait ça va pas et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que c'est vachement appréciable de faire un livre à quatre mains, c'est super pour ça quoi. Surtout avec Anthony qui a une énorme culture basket et voilà, je fais pas du tout de la lèche ou quoi, hein, c'est la vérité, il connaît vraiment de quoi il parle, donc c'est intéressant parce que du coup, moi-même, j'apprends des trucs, je remets en cause, y a des choses où je me suis remis en cause sur des avis sur certains joueurs et tout.
Avec son patrimoine de films piratés, là, ouais, effectivement.
c'est pas des films, ce sont des matchs.
Pardon. Oui, des matchs. Bon, dans l'eau, t'as peut-être chopé quelques films.
Des films de Dennis Rodman ?
Non, vas-y, s'il te plaît, non.
Un peu de respect. Le film du Jacques.
En tout cas, tous les deux messieurs, vous rentrez dans les critères justement pour pouvoir nous aider à établir le classement du GOAT. Alors, on va pas parler de classement, on va parler d'un nom. On va essayer de déjà dans un premier temps d'un peu débriefer ensemble les mentions honorables, les personnes que l'on peut citer, mais qui ne fera pas forcément partie. Présentés comme des candidats crédibles en tant que GOAT. Donc ça sera dans un premier temps. Et dans un second temps, on va commencer à rentrer dans le dur, où là, on va nous fixer nos critères que nous allons retenir pour effectuer notre choix et passer finalement à nos avis tranchés respectifs. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire de la franchise à pas mal d'époques respectives. Et je vais donner la parole à Juju. Bah pour savoir si déjà, toi en tête, tu as quand même quelques mentions honorables, on va...
Ouais, mentions honorables, hors top 3, le premier qui me vient, c'est Bernard King, qui a été un très gros scoreur, 82-87, les années où il a joué, il tournait à 26 points de moyenne, arrière, athlétique, scoreur.
Énorme scoreur,
énorme athlète d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de revoir des vidéos de ses meilleures actions ou de ses meilleurs matchs, vraiment le go-to guy de l'époque chez les Knicks. Bernard King me vient rapidement en tête.
Ouais, et puis d'autant plus que là, sa meilleure saison statistique, c'était en 84-85 où le Gonz, il tournait quand même à 33 points, quasi 6 rebonds, presque 4 passes d'ess et plus d'un style par match, voilà. Donc ça place quand même
un sacré
un calibre en termes de scoreur, hein. Voilà.
Puis un joueur new-yorkais en plus, un joueur du cru en fait. Bernard King et son frère, je crois que c'est Albert King. C'est des joueurs qui sont issus de New York, Brooklyn, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est Brooklyn.
C'est ça. Merci, Brooklyn. Donc ouais, un joueur qui a joué aux Nets aussi, bon.
Warriors.
Ouais, il est drafté par les Nets. Il va même à un moment donné avoir un petit passage avec son frangin dans cette même franchise, même s'ils n'ont pas réellement joué ensemble. Un joueur offensif, un talent offensif. Malheureusement, carrière qui était en pleine ascension, qui se stoppe par une blessure au genou et qui a après fait de lui un des plus beaux comebacks de la NBA parce qu'il réussit à devenir All-Star quelques saisons après cette grave blessure. Mais ouais, ça fait partie des what if de la NBA et des Knicks. Il arrive aux Knicks un petit peu avant l'arrivée de Pat Ewing, donc. On aurait pu se poser la question de ce qu'aurait donné cette association Bernard King, Pat Ewing, si tout le monde avait pu rester en bonne santé. Mais ouais, peut-être trop court pour rentrer dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps des Knicks, on est d'accord.
Et puis il y a cette image, de King avec sa couronne.
Ah là là, ouais, c'est iconique cette photo.
Là, tu vois, c'est iconique quoi, c'est vraiment.
Il avait le style.
Ouais, c'est légendaire quoi. Un prince à New York, quoi.
Bah, le roi. Le roi de New York. King of New York.
Et là, je serais tenté de te dire, là, Juju, le premier nom que tu évoques, ça commence à taper dans le... Ça tape dans le dur. Hein. Là, tu as décidé d'y aller fort.
Quoi. Non, mais en même temps, on a quand même eu des sacrés joueurs, mais malgré ce qu'on entend souvent à gauche, à droite, sur l'équipe new-yorkaise. Donc voilà, le premier nom, c'est Bernard King. Après, pour la jeune génération, ça évoque peut-être pas grand-chose. Enfin, moi, je suis né en 81, donc je ne l'ai pas vu jouer. Hein, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire oui, j'ai grandi avec lui et tout. Maintenant, quand tu t'intéresses au Knicks, bah, tu t'intéresses à l'histoire. Et quand tu vois un petit peu, tu creuses un petit peu, tu vois les matchs et tout, c'était quand même un sacré gaillard, un sacré joueur.
Ah, c'est
athlétiquement, ouais. Pour l'époque, c'était un vrai beau bébé. Il avait un jump incroyable. Et puis, il était vraiment, offensivement, c'était vraiment une arme redoutable. Défensivement, il faisait le taf, mais c'était pas sa première caractéristique. Mais vraiment, c'était un scoreur extraordinaire, Bernard King. Et c'était vraiment l'une des plus grosses stars qu'on ait eues post-titre.
Et Anthony, qu'est-ce que tu en penses, toi, de le fait de pas le rentrer, justement, dans ce cas de finale?
Pas le rentrer, pour moi, c'est normal, parce qu'il a, globalement, il a joué 3 ans à New York, c'était court. Deux saisons plus ou moins pleines, et la troisième, justement, où il cartonne à 33, et bah, il joue une cinquantaine de matchs, quoi, avant, justement, sa grosse blessure. Et c'est trop court. Maintenant, les 2 années où il a passé là-bas, il a quand même marqué les esprits, notamment, justement, la saison 83-84, parce que le premier tour contre Détroit, ils sont pas du tout favoris, les Knicks, hein, ils sont vraiment mis 6 pieds sous terre. Ouais. Mais Bernard King, il renverse la série quasiment à lui tout seul. Le dernier match à Détroit, il est incroyable. Et que dire après, limite, de la série suivante contre Boston, contre Larry Bird, je veux dire, les Celtics, jamais tu pensais que les Knicks vont les tirer jusqu'au Game 7, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais voilà, pour moi, c'est trop court. Ça reste un des joueurs majeurs de l'histoire des Knicks, mais pas du tout le mettre dans la discussion. Une mention, c'est très bien, quoi. Ça va, pour moi, ça va pas plus loin.
Il a pas de titre, il a pas de titre individuel. Il a, voilà, donc c'est vraiment une mention.
Et... On va évoquer justement les critères. Et Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ce qui est intéressant avec Bernard King, c'est que c'est le premier nom dont on parle, qui est inévitable, et il n'a pas son maillot qui est retiré.
Ouais.
Donc ça, c'est... Ouais.
C'est un signe.
Ça signifie quand même déjà beaucoup de choses, même s'il y a des choses à redire sur les maillots retirés, évidemment, mais je trouve que ça signifie pas mal, quand même, lui qui remet, évidemment, New York sur la carte avec cette équipe. C'est vrai que ces playoffs... Sont fous, hein. Y a pas, c'est complètement dingue, comme il a dit, hein. La série contre Détroit et contre Boston, c'est irréel. Voilà, après il a son record au Christmas Day, voilà, personnalité très particulière, hein, Bernard King.
Quand, ouais.
Là, je prépare un portrait voilà, qui va tomber. Et c'est vrai que bon,
il y a quelques zones d'ombre.
Ah, là on est vraiment dans l'ombre.
Ah, là, l'ombre sombre.
C'est très très sombre. Donc voilà, après il a, c'est vrai que ce côté comeback qu'il a eu avec les Bullets, c'était bien, mais c'était pas avec les Knicks. Les Knicks a duré 2 ans et demi, enfin 3 ans, mais il se pète. Mais voilà, en 2 ans et demi, il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Pendant longtemps, il a quand même gagné une série à lui seul quasiment. L'équipe de New York était pas complètement dingue, hein. Faut pas.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'après, faut voir ce qu'il avait autour, quoi.
Hubie Brown, c'était un super coach, y a pas de problème. Mais bon, Bill Cartwright était correct, hein. À l'époque, c'était pas le Bill Cartwright des Bulls, hein. Il était quand même plus.
Oui, il était pas encore cramé.
Voilà.
Il était
pas encore cramé. Mais bon, Truck Robinson, Rory Sparrow, Ray Williams, tout ça, c'est mignon, mais bon.
Je suis d'accord avec toi, c'était un désert quand même.
Il y a rien, quoi. Voilà. Il y a rien. Et puis c'est dans l'Est. L'Est à l'époque, on sait ce que ça veut dire. Hein. L'Est, c'est les Celtics, c'est les Sixers, c'est les Bucks, c'est la montée en puissance de Détroit. Non, c'est complètement dingue. C'est ce qu'il a réussi à faire, c'est complètement dingue. Et ça rentre pour
et
moi.
Et puis pour l'époque, On est dans les années, début des années 80. Il est franchement, la façon dont il drive, la façon dont il attaque le panier et tout, c'est pas si commun que ça à l'époque, tu vois, d'avoir un joueur aussi physique, aussi fort avec du jump. Enfin, franchement, il était très, très impressionnant. Après, il y a l'arrivée de Jordan, les NBA qui changent. Mais pour son gabarit, il fait 2m1. Je ne suis même pas sûr qu'il les fasse vraiment. Mais tu vois, il attaque le panier. Il est vraiment sur du jump, sur du lay-up fort.
Et puis, il est inarrêtable. Hein. Il est clairement inarrêtable. De haut panier, voilà, sur demi-terrain, il est... Enfin, c'est... Voilà, s'il va en mettre 40, il en met 40. Ouais, non, c'est dingue. Après, on a dit quand même qu'il... Effectivement, il n'a pas de titre individuel, il n'a pas tout ça. Bon, il a les sélections All-Star, mais bon,
deux fois All-Star, mais il est quand même Hall of Famer.
Mais il est quand même deuxième au titre de MVP, chose que d'autres personnes qu'on va citer n'ont pas été.
Je vois pas de qui tu parles.
Non, parce que vous verrez que. je dis rien, mais bon.
C'est révélateur d'une belle saison, enfin d'un beau passage. Évoques le côté un beau ranking au niveau des votes MVP. C'est pareil, c'était un visage qui comptait. Alors oui, il y avait le maillot New York derrière, il y avait toute l'image. On l'a évoqué avec la couronne, mais il faisait partie des quelques joueurs là qui représentaient la marque Converse à l'époque. Qui était la marque numéro 1 du basket, avec côté de Magic, à côté de Larry Bird. J'oublie le gars des Pistons.
Thomas.
Marc Aguayer.
Marc Aguayer, mais qui était au Mavs.
Au Mavs.
Mais il faisait partie du gratin de la marque numéro 1 à l'époque. Quoi. Donc c'était une façon de classer le joueur, d'adouber le joueur dans son potentiel de star. Quoi, en fait.
Et puis si tu ramènes le temps passé et tout, ça reste quand même une icône incroyable pour le peu de temps qu'il a passé. Voilà, et ça reste
les gens se rappellent de lui encore au Garden, à New York. On revoit ces images de Bernard King. Et puis aussi ce match record à Noël là où il score la soixantaine de points, ça a aidé à construire sa légende, même si ça reste dans une défaite.
Bah, c'est Nyx, quoi.
C'est Nyx.
Tu vois la petite touche qui va bien.
Alors, il y a une chose à vérifier aussi, mais je m'en souviens pas exactement. Quand il a fait un back-to-back 50 points deux fois d'affilée contre les Spurs et les Mavericks, c'était en 84, je me demande si c'est pas le premier non-intérieur à réaliser ça dans l'histoire. Depuis Chamberlain, forcément, Chamberlain, c'est autre chose. Elgin Baylor l'a déjà fait.
Elgin Baylor, quand même. Ouais. Mais... Voilà, après, Rick Berry, à mon avis, dans la saison où il est à 35-6...
Il a dû en faire des belles sorties.
Déjà, rien que dans sa saison rookie, il est costaud, le copain. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le back-to-back en 50, on the road, enfin voilà, c'est très très sale. Hein. C'est très très sale.
Joanie, donc on a évoqué Bernard King. On a bien fait le tour, mais en même temps, il le mérite aussi. Et toi, tu as un autre nom marquant comme ça
Non, au rayon des joueurs il y en a plusieurs qui viennent en tête, mais je vais partir sur un qui passera peut-être un peu mieux. Des joueurs qui ont pu marquer, qui ont eu quelques moments de fulgurance, qui ont fait un beau passage, qui se retrouvent finalement dans les rankings des Knicks all-time assez haut, que ce soit en minutes, en match ou en points. Moi, je pense à Alan Houston.
Merci.
Je pensais à un autre d'abord, mais non, on va partir sur Alan Houston. On va pas tout de suite. Alan Houston, quand on pense à Alan Houston aujourd'hui, on dit gros contrat, il a pris son gros chèque et puis finalement il ne jouait plus à la fin, il était complètement blessé et c'est un gâchis par rapport à ça. Faut pas que le contrat éclipse la qualité du joueur et. Ce qu'il a pu réaliser, il a eu aussi de des gros coups de chaud offensivement parlant. C'est un joueur avec une superbe esthétique de jeu aussi, hein, vraiment très fluide dans la façon de jouer. Enfin, on n'en fait plus de si beaux joueurs à avoir joué. Il se retrouve à être finalement dans les rankings de all-time des Knicks plutôt assez élevés, hein, quand je regarde les nombres de minutes jouées. Le nombre de paniers marqués, c'était un gros scoreur. Hein. Deuxième meilleur shooter à 3 points des Knicks, derrière un autre, qu'on évoquera sûrement tout à l'heure. Mais donc c'est aussi une série, un des paniers clutch un panier clutch contre le Miami Heat, qui reste en 99, voilà, oui, un des moments forts où l'équipe numéro 1 de l'Est se fait sortir par le numéro 8, et pas n'importe quel numéro 8, leurs meilleurs ennemis des Knicks. Donc dans un contexte particulier, un panier qui reste dans les mémoires, voilà, ça marque un joueur dans l'histoire, ça fait rentrer un joueur dans l'histoire de la franchise. Il faut aussi des moments comme ça. C'est pareil, on a quelques étoiles de All-Star, mais pas beaucoup plus. On est loin d'être dans les rankings de meilleurs joueurs de la saison. On n'a pas plus de titres. Hein. Quand on parle des Knicks, les joueurs qui ont des titres, il y en a finalement assez peu. C'est pas plus un maillot qui est retiré au plafond du Garden. Ça reste un joueur qui, enfin, une personne qui est toujours dans le scope, dans le staff des Knicks. Donc, il y a une certaine attache avec la franchise. Mais voilà, pas suffisamment pour rentrer dans le panthéon des joueurs, des meilleurs joueurs des New York Knicks.
Moi, je vais juste prendre la main sur Alan Houston. Voilà, parce que vraiment, perso, on va parler d'autres joueurs, mais lui, c'est mon coup de cœur.
Ouais, après. Alors, Bernard King, quoi.
Comme là, ouais, non, avant. Mais Bernard King, j'en parle par la légitimité. Mais bon, Joanie le sait, moi, Houston, j'ai vraiment une grosse affection pour ce joueur. On a souvent évoqué son contrat, des fois à juste titre, mais pas que. Mais c'était un joueur soyeux, qui avait la classe, c'était vraiment un joueur agréable à regarder. Quand il était sur le terrain, il faisait peu de mauvais gestes, il les faisait souvent les bons choix, il forçait rarement, il était toujours juste, et vraiment j'ai adoré voir ce joueur. Quand il est arrivé de Détroit, c'était pas spécialement super chaud à l'époque, tu vois, il avait fait quelques bonnes choses avec Grant Hill, mais moi j'ai jamais été fan de Alan Houston, et le voir évoluer au Knicks saison après saison, toujours régulier, toujours propre, toujours le bon shoot à 3 points quand il faut. Et puis il ne faut pas oublier un truc, il fait partie de l'équipe qui est finaliste en 99. On n'a quand même pas eu des équipes à New York qui ont été en finale tous les ans, donc c'est pas rien quand même. Sur une période où un grand pivot était blessé, il va jusqu'en finale, il est un des joueurs majeurs de cette équipe. Et puis moi je trouve qu'il représente vraiment bien New York actuellement encore, comme il est au sein de l'équipe. Et chaque match qu'il a fait, franchement, je l'ai rarement vu être mauvais. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu forcer ou pas faire le minimum en défense ou offensivement ne pas peser. Après, il y a eu des blessures. Mais c'est vraiment un joueur qui, à sa période, m'a régalé vraiment, vraiment. Après, c'est juste un coup de cœur. Ça ne reste pas le meilleur joueur des Knicks. Il ne peut pas prétendre être le GOAT. Loin de là. C'est un champion olympique en 2000 à Sydney contre l'équipe de France. Et puis, il est deux fois All-Star. Donc, voilà, ça reste un bon joueur, un bon arrière.
Alors, Alan Houston, pour moi, c'est assez compliqué. C'est un joueur que je trouve, oui, très beau à regarder jouer, mais moi, il n'a jamais correspondu au style des Knicks. Pour moi, c'est trop soft. Il a eu mal de ratés quand même, justement, à partir de son arrivée en 96. Quand ils ont reconstruit plutôt, parce que forcément, c'était un petit peu vieillot. Il fallait rester avec Oakley et John Starks. 5 majeurs, c'était évident qu'il fallait faire un changement. Alan Houston, il a apporté quelque chose, mais pas trouvé ça fantastique. Et puis même en 99, en dehors justement de son shoot contre Miami, là, il y a quand même eu des hauts et des bas pour lui durant la campagne de playoff. Bon, il a fait quelques gros cartons, je sais pas si vous vous souvenez, mais contre Atlanta, je crois que c'était le premier match contre Atlanta, ouais, avec Sprewell,
ils prennent feu.
C'est monstrueux. Ouais. Et puis la finale de conférence contre Indiana, il est l'un des facteurs de la qualification des Knicks pour la finale, parce que alors, cette série, il y a eu, on va dire, 3 bonhommes. Il y a Marcus Camby, Latrell Sprewell et Larry Johnson, bien sûr. mais Alan Houston, en fait, pour moi, il s'est sacrifié tout le long de la série en défense sur Reggie Miller. Reggie Miller, il a complètement foiré sa série. Et il s'est tellement donné à Alan Houston à courir partout derrière les écrans pour rattraper l'autre Uberlu, là, à chaque fois. Alan Houston, voilà, c'est un bon joueur, c'est un joueur très agréable à regarder, au soft. Et sur la fin, il y a eu les blessures. Je veux dire qu'il a signé son gros contrat au moment où il allait quasiment se blesser. Donc, c'est dommage qu'on en... sont arrivés là, quoi. C'est plutôt clair.
Mais et toi, Julien, tu voulais intervenir sur Alan Houston aussi?
Ouais, je plutôt de l'avis d'Anthony. Moi, je suis pas fan d'Alan Houston. Je reconnais que ce qu'a dit Jules, c'est qu'il était régulier. Après, c'était pas régulier avec des statistiques folles, mais il avait au moins ça pour lui. Faut quand même lui reconnaître. Je trouve un petit peu dur Anthony quand même sur les playoffs 99. Le game 6 ouais. contre Indiana, c'est vraiment lui qui il est incroyable. Quand même lui, malgré tout, le meilleur joueur du game 3 contre les Spurs, où on gagne. Donc, vu que c'est le seul match gagnant, on va au moins lui accorder ça. Voilà, moi, le problème que j'ai vraiment avec Alan Houston, c'est comme a dit Jules, c'est que il est élégant, il est agréable à regarder, sauf que les Knicks, moi je m'en cogne que tu sois agréable à regarder. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux que ça bastonne plus, je veux que ce soit un petit peu plus costaud. Et en plus, ce qui était assez saisissant, c'était le parallèle qu'il y avait avec Sprewell, qui était à côté, ouais. un peu chien fou, un peu pitbull, un peu hargneux. Et lui, il était à côté. Alors après, c'était bien, parce qu'il y avait les deux côtés, ça marchait bien.
Le feu et la glace, quoi.
Ils étaient en balance, tous les deux, Sprewell et Houston, au niveau du poste 2, poste 3.
C'est ça. C'était un bon casse-tête pour l'adversaire. Ouais. Maintenant, moi, ma préférence entre les deux, c'est clairement Sprewell et largement... après Houston, il est quand même arrivé aussi dans la reconstruction. Des problèmes, il arrive. C'est pas non plus, New York, c'est quand même assez compliqué quand il arrive. Hein, c'est Van Gundy tout de suite. Ils viennent de sortir d'une saison 96 plutôt compliquée avec tous les problèmes qu'il y avait eu avec Don Nelson. Il s'est terminé en route, Bon, c'est un personnage, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord qu'il ne faut pas le résumer à son gros contrat, c'est assez injuste. Maintenant, je le mets pas du tout très très haut, mais je comprends parfaitement le coup de cœur, surtout vu l'âge de Jus, quand on a exactement le même. Forcément, on a grandi, et puis comme il a dit, ça reste quand même la finale 99. Il met quand même le tir contre Miami. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, il lui appartient ça et ça bouge pas. Ah non, c'est plus que ça compte.
Ça compte double, triple.
Parce que Sprewell juste avant fait une bourde énorme et de perdre la balle et puis c'est pour le coup c'est un vrai game winner. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le panier, c'est pas prolongation, c'est défaite.
Et puis à titre personnel, j'adore Sprewell, mais Sprewell est resté quand même moins longtemps et moins.
Je l'adore. On peut enquiller directement avec Sprewell.
Mais c'est très court. Son passage chez nous est très court quand même, et j'identifie quand même moins à New York qu'à Houston. Après Houston, c'est vraiment la wild card, c'est vraiment le côté. J'adore ce joueur. J'entends les défauts qu'il a, j'entends son côté soft. Je l'ai d'ailleurs dit gentiment qu'il n'était pas un gros défenseur. Hein. Après, il a fait le taf contre Reggie Miller, notamment, on en a parlé et tout. Mais ce n'était pas sa caractéristique première. Sprewell, on peut en parler. Mais moi, tu vois, Sprewell, je ne le mettais même pas dans les mentions. Sincèrement, je ne le mettais même pas dans les mentions.
Ah, t'es dur.
Ah là, c'est très compliqué. Moi, c'est dur.
Ah, l'affect parle beaucoup quand on parle du GOAT. Hein.
Attention, parce que là...
Non, mais si tu me fais un top 10, il y a d'autres joueurs. Sprewell, toi, je l'adore. Petite dédicace à notre ami Soart, où j'ai son fond d'écran avec Spree. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu vois, il y a d'autres joueurs avant Spree en mention, vraiment. C'est tout. Après, on peut en parler. Ouais, c'est un arrière extraordinaire. Quand il arrive, il apporte son côté chien fou. Je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Julien ou Anthony. Spree, c'est quelqu'un que j'ai aussi adoré. Maintenant, je le mets un cran en dessous de certains joueurs qu'on va citer.
Alors, Sprit, parce que bon, on ne va quand même pas aller dans un classement des personnes qui sont portes de la sélection. Là, ce serait beaucoup trop compliqué. Sprewell, moi, c'est mon coup de cœur personnellement. Alors oui, je suis lucide, effectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui a marqué la franchise dans la durée. Après, par contre, il y a tout un contexte. Il y a tout un contexte sur l'arrivée du Sprit. Il sort d'une année de suspension avec ce qui s'est passé au niveau de l'étranglement. Il arrive dans un contexte où il se présente au Knicks, il y a tous les médias qui lui répètent sans cesse dans quel contexte il reprend, comment va se passer son intégration, t'as tous les micros qui se tendent, c'est le gars qui est banni, c'est quelqu'un qui est vraiment montré du doigt partout. Il démarre sur une saison 98-99, là où dans un contexte particulier où il y a 50 matchs.
Faut pas oublier non plus qui il a remplacé.
Oui, l'échange avec John Starks. Oui,
Monsieur vient des Warriors, mais on a échangé John Starks contre Sprewell. Donc forcément, le contexte, il est un peu compliqué pour lui, qui est en pleine rédemption, se racheter une virginité aux yeux de la NBA. Je viens remplacer John Starks, qui était un des chouchous du Garden, quoi. Donc, compliqué,
avec
quoi.
Avec quelques résonances médiatiques que pour présenter New York. Le mec arrive, il se pète en cours de saison, en plus. Donc c'est encore plus compliqué pour, pour son intégration. Mais effectivement, c'est des gros cartons, c'est de l'intensité. C'est quelqu'un qui fait partie des éléments majeurs de l'upset avec un grand U qui a réalisé les Knicks cette saison-là. Huitième spot, ça vient taper le premier, ça va jusqu'en finale, c'est juste énorme. Et par moments, il a porté vraiment la franchise par ses actions défensives et son scoring. Son scoring, parce que il y a la blessure de Ewing qui rajoute au drame de ce magnifique parcours. Et non, le gars, moi, franchement, c'est quelqu'un qui m'a marqué, vraiment. Tombé amoureux de cette équipe de 99 et de son épopée. Et pour moi, c'est l'une des figures justement majeures de cette épopée-là.
Tout à l'heure, Julien disait que Alan Houston, en gros, il était trop soft. Il avait une image qu'il dégageait trop soft. Sprewell, c'était complètement l'inverse. C'était l'énergie, la niaque, la folie. Donc ça, c'était kiffant, quoi, aussi, quoi. Ce que pouvait dégager le joueur. Mais après, on est d'accord, c'est un passage qui est peut-être un peu court pour pouvoir être pareil dans les joueurs marquants, dans les carrières marquantes, dire t'as d'autres grands noms des Knicks.
Et puis il arrive, il va directement en finale. Après, moi, c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, je l'adore. Je suis comme toi, il y a l'affect et tout. Le côté chien fou, je l'aimais déjà aux Warriors. Il y a d'autres joueurs, si on parle raisonnablement. Il mérite une mention peut-être un peu plus grande que lui.
Alors qui, par exemple? Qui?
Bon, mais il y a un joueur qu'il faut évacuer, il va falloir parler. Parce qu'on va peut-être pas faire 40 mentions non plus. Mais bon, on va quand même parler du gars avec son bandeau et son numéro 7. Carmelo Anthony. Notamment pour toute une génération un peu plus jeune que la nôtre, d'ailleurs. Qui a quand même grandi en bouffant du Carmelo Anthony régulièrement à New York. Et il a quand même été un joueur majeur de l'équipe ces dernières
saisons. Ça a été un des visages de la franchise. Pareil, record de points au Garden, mine de rien. Un des meilleurs scoreurs all-time au final des Knicks, par la longévité, hein, surtout. Mais c'est pareil, on est aussi sur un joueur qui, même si il y avait le côté star, côté retour de l'enfant prodige au pays, finalement tout s'est pas si bien passé que ça. Et puis on parlait de Sprewell, on parlait de Houston qui vont jusqu'en finale. Entre autres, parce que c'était pas tout seul, c'est cette génération 99. C'est ce qui manque surtout à Carmelo Anthony, et nombreux sont ceux à lui reprocher. C'est finalement le parcours en play-off, il y en a pas ou très peu, et c'est ça qui manque. Donc des gros cartons offensifs, avoir entre guillemets l'étiquette de franchise player, même si c'est compliqué de pouvoir dire qu'il était un franchise player, c'est pas suffisant pour venir faire partie des meilleurs joueurs all-time des Knicks, hein, pour moi. Même si j'ai adoré ces passages. Il était pareil, bon d'un côté du terrain et moins de l'autre, moins investi de l'autre. Il y a eu quelques blessures, il y a eu beaucoup de changements de coach. Il y a un entourage, un supporting cast qui peut être discutable, mais finalement trop peu de résultats, trop peu d'éléments marquants pour dire ça fait partie des meilleurs joueurs des Knicks. Non, c'est un joueur récent un joueur star, parce qu'il a été mis au niveau d'une star, mais dans les faits quand même en retrait par rapport à plein d'autres noms.
Moi, Carmelo, je vais juste évacuer vite le sujet, après je laisse les autres en parler. C'est un talent offensif incroyable, faut quand même le reconnaître. C'est un joueur extraordinaire à avoir joué. Un peu trop d'iso à mon goût, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Joueur complet offensivement. Par contre, je trouve qu'on a payé très cher sur ce qu'on a envoyé à Denver. Et il avait un moment énorme et il n'a jamais accepté d'être coaché. Un peu comme LeBron James, mais avec un talent quand même beaucoup moindre que LeBron. Après, il a quand même fait des gros cartons, nous a quand même fait kiffer sur pas mal de matchs. C'est un gros gâchis quand même, et je pense que son mental et son melon, ils sont pour...
Anthony, ton avis sur le sujet, sur le tandem esprit, Anthony?
Alors, la toile Sprewell, en fait, c'est... J'ai parlé tout à l'heure de son arrivée devant les médias. Faut savoir aussi que Van Gundy, il y avait Dave Checketts qui était le président à l'époque. Les deux étaient partis à la rencontre de Sprewell. Il y a une maison à Milwaukee. Sprewell, il leur ouvre la porte. Il était mal rasé. Il avait la touffe. Il était en jogging. Et pas du tout adapté pour une rencontre. Hein. C'était quand même pour se faire recruter. Hein. Et déjà dès le départ, t'as Checketts et Van Gundy qui vont dans le canapé. Sprewell, il est en train de regarder un match, je sais plus, de NFL ou autre, avec le son à fond. Il en avait rien à secouer. Le reste, à un moment donné, il y a quand même Checketts qui lui dit bon, écoute, tu peux baisser le son parce que là, on va parler sérieusement. Et apparemment, la discussion, c'est quand même tout. plutôt bien passé. Ils ont eu quand même un petit peu de doute au départ. On va dire que le côté, justement, revanche de Sprewell, qui voulait vraiment, il l'a dit, il voulait absolument se racheter par rapport à ce qui s'est passé. Il voulait, plus que tout le monde, il voulait rejouer. Je pense que ça a été un des facteurs pour lequel New York l'a recruté.
Ah, c'était un sacré pari quand même.
On parlait du transfert de John Starks, mais je sais plus si c'est avant ou après, t'as Charles Oakley qui était transféré contre Camby. Bon, oui. La transition était quand même très, très compliquée. Sprewell, il remplace John Starks, mais il est pas titulaire parce qu'il est sixième homme la plupart du temps.
Exactement.
Et, il a été titulaire à partir, je crois, d'Atlanta, voilà, en demi-finale. Alors, la différence avec Alan Houston, c'est que Sprewell, c'est quand même très irrégulier, ça faut pas se le cacher. C'est un mec qui met 40 points un jour et puis le lendemain il te fait 10 points à 3 sur 20. Mais son côté, c'est vrai, ça, son côté chien fou, juste.
Propension à pouvoir enflammer la Garden.
Ah, c'est ça. Et puis avec Julien, je le vois souvent en parler de cette image. C'est au Game 7 contre Miami avec le drapeau orange, drapeau des X au-dessus de sa tête pour dire bah, ça y est, on vous l'a mis bien profond. C'était fantastique. C'était vraiment le joueur pic des années 90 avec la mentalité d'Enix, quoi. C'était parfait. Bon, par contre, c'est vrai que ça a été très court. Dommage. Je voulais revenir aussi sur un truc sur Sprewell. Il était explosif. Le Sprewell des Warriors était quand même un niveau largement au-dessus.
Oui, bien sûr.
C'était pas du tout le même type de joueur, parce que bon, de toute façon, Sprewell, il s'est blé. Bon, déjà, quasiment un an sans jouer, c'est pas simple. Et il s'est blessé aussi avec les Knicks, début de la saison. C'était pas la même explosivité que les Warriors, mais absolument rien à voir. Il était peut-être quand même un petit peu plus sérieux dans ses actions, hein, faire n'importe quoi, on va dire, sur le terrain. Bon, faut dire, à Golden State, il y avait personne autour, donc il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Hein. Par contre, avec Jeff Van Gundy sur le dos, je pense que c'était pas du tout la même chose. Ouais, sur la durée, c'est dommage. C'est au moins Sprewell, ça allait aller. 3 ans, hein, 99, 2000, 2001. Après, c'est la fin totale des Knicks. Et puis bon, après, il y a quand même eu l'échange contre Keith Van Horn. Hein,
oui, on a raison de l'oublier, en fait. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est dingue de sortir ce nom quand on parle du GOAT, mais bon, ouais, ouais.
Ouais.
Le mec, il arrive contre Starks et il part contre Keith Van Horn, quoi. Voilà, cherchez les rats.
Et Julien, tu voulais un petit peu évoquer prix avant d'attaquer la partie, enfin, refermer la page mélo. Désolé de parler comme ça, mais bon.
Sprewell, bah là, pour le coup, juste, c'était le cœur avec Alan Houston. Moi, c'est clairement le cœur avec Sprewell. Irrégulier, effectivement, beaucoup moins bon, et moins fort et moins impactant, surtout. Qu'aux Warriors, parce que aux Warriors, tout le monde l'a oublié, hein, mais son début de carrière à la Trail Sprewell, il est ahurissant. Hein. J'ai l'impression que les gens, ils oublient à chaque fois, mais il arrive en 92-93 et il est déjà All-NBA First Team en l'année d'après. C'est-à-dire en saison sophomore, il est All-NBA First Team, sachant qu'il est aussi dans la All-Defensive Team.
Il a été drafté en plus à la fin du premier tour.
Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc,
et à l'époque, il a même une popularité. Enfin, moi, peut-être je me trompe, mais il n'était pas sur les Frosties ou quelque chose comme ça, le Sprewell.
Il est élu dans le meilleur, dans le 5 de départ du All-Star Game 95. Donc, c'est ça. Après, son problème, bah, c'est Golden State. Hein. C'est que lui, il a eu vraiment la poisse des Golden State avec les blessures d'Hardaway, de Mullin qui se sont succédées. Donc, voilà. Après, il arrive à New York. Bon, on a à peu près tout dit. Faut pas oublier, quand même, il a trois gros classiques à son actif individuel. Il y a déjà le match à Milwaukee, hein, il est de là-bas. Le match à Milwaukee, le fameux match de 2002 en janvier. Il est complètement déchaîné. C'est un truc, ça part en deux prolongations. Il en met 48, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, Houston est très bien aussi, hein, pour le passage. Et voilà, un match, franchement, faut le regarder. Je pense qu'il doit traîner. C'est vraiment très popcorn. Il se tire la bourre avec Glenn Robinson. C'est incroyable. Il y a le match au Garden, par contre, contre les Clippers. Alors là, c'est le 9 sur 9 à 3 points. Ouais. Donc ça, c'est la perfection absolue.
Alors que ce n'était pas intrinsèquement, c'était pas sa spécialité.
Non, c'était pas sa spécialité du tout. Non, non. Mais bon, voilà, c'est un petit match. Alors, celui-ci, on peut le zapper parce que mais c'est pour la démonstration des 9 paniers à 3 points. C'est vrai que c'est quand même pas tous les jours. Et puis il y a le match quand même contre les Celtics. Parce que la rivalité Boston-Knicks, avec le match-up, enfin le duel à distance avec Antoine Walker, où là ça part dans tous les sens et Franchement, il met 49 et Walker, il doit mettre 40 ou 42, je sais plus. Enfin, mais c'est un bordel. Ouais, c'est un bordel sans nom, ça part en prolongue. Enfin, il y a n'importe. Enfin, voilà, mais Walker, il doit prendre 20 tirs à 3 points. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, Antoine Walker, hein, là, on est vraiment dans le. Mais voilà, c'est lui qui force le. C'est lui qui met quand même le tir pour la prolongue. Après, en prolongue, bah, il fait quand même le taf. Voilà, en plus il y a Paul Pierce dedans, donc c'est toujours appréciable. Ça c'est pour Sprewell. Moi je le mets évidemment que je le mets pas dans la conversation du GOAT, mais par contre dans le cœur il est sur mon podium évidemment. Et après bah j'enchaîne avec Carmelo pour moi c'est même pas une déception. Non, mais c'est même pas une déception parce que bon, Anthony est témoin. Anthony, on se connaissait à l'époque, on en parlait. Moi, Carmelo Anthony, j'en ai jamais rien attendu. Et ben, je pense que j'ai bien fait en fait. C'est un fabuleux joueur, c'est un scoreur peut-être unique. Il a une capacité, mais bon, voilà, il a pas de mental, il a pas d'éthique de travail. Il essaye de s'en convaincre en mettant des hoodies. Voilà, et se filmer. Je l'ai jamais vu aussi fort, Carmelo Anthony, avec ses hoodies au mois de septembre. Ouais, c'est assez impressionnant. À chaque fois, il dit je vais arriver avec des kilos en moins et tout. À chaque fois, on le voit avec son petit bide et son gros cul.
Non, mais c'était la protection qu'il avait sous son maillot qui le boudinait un
petit
peu.
C'est ça. Et non. Et puis, accessoirement, il y a toujours une attitude qui m'a énervé chez lui, c'est de fuir les responsabilités dès que ça allait pas. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal au bras et tout. Et puis quand ça cartonne, je suis bien dans mon basket et tout. Bah, ça me gave en fait. Ça me gave. Franchement, c'est pas
une attitude un peu de diva, hein, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Qui prend la lumière, qui va pas forcément au charbon.
Et puis j'ai jamais compris. Et ça, c'est franchement, c'est le public du Garden. Je l'ai toujours considéré comme un public de puristes. Alors beaucoup moins maintenant, forcément. Mais à la base, pour moi, le Garden, c'est un public de puristes. J'ai jamais compris cet amour qu'ils ont eu.
Cette affection. Mais après, c'est aussi un joueur à la base, un peu. De New York, donc il aimait New York et New York lui rendait bien, mais oui, c'est sûr qu'il n'avait pas du tout cet esprit de travailleur de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a connu les années précédentes, quoi. Donc c'est un joueur qui aimait briller, qui aimait le côté beau du jeu, mais pas forcément le côté rugueux, quoi. Donc,
Putain, le mec qui gagne une série de playoffs. Non, mais est-ce qu'on se rend compte deux secondes?
À la T-Mac, enfin,
qu'on s'arrête deux secondes là-dessus. Il gagne une série de playoffs.
C'est largement trop peu pour.
C'est pas possible. Une série de playoffs en plus. La série, c'est contre Indiana. C'est contre Boston, contre Boston et ils ont des absents. Hein. C'est pas le gros Boston. Hein. Déjà, il n'y a pas Rondo. Hein. Rondo, il est plus là. Hein. Il est blessé, Rondo. Donc déjà, faut bien se mettre ça dans le crâne. Tout le monde l'oublie, mais il n'y a pas Rondo. Enfin, sur la série, c'est au-delà de la croque. Quoi. Il fait n'importe quoi. Mais je sais plus c'est quoi ces stats, mais c'est horrible.
J'ai un truc en tête vite fait là contre Boston, et un truc qui m'avait marqué, c'est la communication et l'état d'esprit où en fait on était en plein attentat à Boston et t'as les mecs qui viennent saper tout en noir.
Keyon Martin.
Dans l'optique de les sweeper, quoi. Non mais dans le contexte.
Ouais, parce que il mène 3-0. Carmelo il est super bon, il mène 3-0. Ils arrivent et les mecs qui ont rien gagné depuis des années, qui sont des losers absolus. En plus, tu fais ça contre Boston. Enfin, je veux bien qu'il y ait la rivalité, je veux bien qu'il y ait tout ça, mais enfin, évite de chambrer Boston, quoi. Déjà, évite. Et en plus, tu fais ça, et derrière, t'es claqué au sol. Tu fais n'importe quoi. Franchement, en plus, ça gagne en 6. Le match, ils le gagnent en 6, mais ils sont pas loin de le perdre. En plus, ils se font rattraper comme des cons au match 4. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette série. Et derrière, en plus, ça perd contre qui? Ça perd contre les Pacers, l'ancien rival. Franchement, en fait, Carmelo, le problème que j'ai avec lui, c'est que j'ai pas un seul bon souvenir. Enfin, si j'en ai un, c'est quand j'y suis allé et qu'il a fait un match d'enfoiré et que Dirk a marqué au buzzer, c'est tout. Mais c'est le seul bon souvenir. Mais ce que je veux dire, le mec, il est resté des années et demandé, c'est quoi? Enfin, on dit, ouais, il a le record de points.
Bah, le record de points, mais c'est pas en saison régulière.
Mais c'est contre qui? C'est contre des pantins. Enfin, je veux dire, les Bobcats. Hornets. Les Bobcats par les Hornets, pardon. Moi, après, je suis peut-être un peu sévère, hein, mais moi, Carmelo, je ne comprends pas comment ce mec-là peut exiger et dire, ouais, je veux que mon maillot soit retiré. Mais jamais de la vie.
À Denver, à la limite, pourquoi pas, mais même pas ici. Jamais en rêve. Mais bon, après, je suis peut-être sévère.
Vu la difficulté d'atteindre le plafond de Garden, ça va être très compliqué de pouvoir voir son maillot retiré, on est d'accord. Il remplit pas du tout les cases.
Et je termine juste un truc, ne jamais oublier que c'est Carmelo Anthony qui prive LeBron James du vote à l'unanimité pour le MVP en 2013.
Sûrement un journaliste new-yorkais qui était inspiré sur le moment.
Messieurs, là, on a évoqué Anthony. On va remonter rapidement sur la liste parce qu'il y a encore quelques noms qu'on n'en a pas évoqués, notamment John Starks, messieurs.
Oh, il manque beaucoup de choses. C'est un joueur emblématique. Il y a une sélection All-Star. Il y a le titre de sixième homme. Mais voilà, on n'est pas sur un joueur de type franchise player. Il n'y a pas de record à l'appel. C'est un joueur emblématique. C'est un joueur marquant, charismatique. Les confrontations avec Jordan, avec Reggie Miller. Et il suffit de pas grand-chose pour que le mec il rentre dans la légende des Knicks en mettant un 3 points et en évitant un contre de Olajuwon, en mettant aussi quelques paniers dans le Game 7. Mais c'est un joueur que les gens adorent, mais il manque trop de choses, quoi.
C'est un underdog, on ne l'avait pas vu venir. C'est le joueur affectif et par excellence à New York. Contre Jordan et Grant. Après, c'est un joueur qui est quand même techniquement assez limité. Il était dans l'énergie, vraiment, ce qui plaît beaucoup chez les Knicks. Après, il s'est quand même bien chié dessus contre les Rockets en finale.
C'était dur.
Ouais, sur la fin des finales. Sur le match 7, surtout. Mais
ouais,
autrement...
C'était dur.
Tu vois, ça me fait penser un peu à Nick Anderson côté Magic. Toi, tu retiens que ça. Moi, Star, c'est un joueur que franchement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je le trouve quand même dans une catégorie bien en dessous des joueurs qu'on va évoquer après ou certains joueurs qu'on a déjà cités. Après, c'est un joueur que j'ai apprécié. Hein. Star, ça reste emblématique et à New York. Ce côté underdog, chez un fou, que tu vois pas venir et qui se bat alors qu'il n'est pas forcément annoncé comme un grand joueur et qui se fait sa place et qui en devient titulaire et qui devient une image iconique de cette équipe des années 90. Pour Stark, c'est ce que j'en pense.
Ouais, tu voulais rebondir, Julien ?
Stark, évidemment que je le mets pas. Stark, ce qui est horrible, c'est de se dire qu'à un tiers près, il a sa statue, quoi. Non, mais il a sa...
Son maillot de retirer.
Je pense... Ouais, bien sûr, mais je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait. Je pense que en termes de destin, je pense que John Starks, enfin, le mec, il aurait pu être le mec qui donne le titre aux Knicks. Enfin, il faut juste réaliser le délire, en fait. Parce que cette finale-là, tout le monde l'oublie, et Wing est pas bon. Vraiment pas bon.
Il se fait manger par le Joan. Hein.
Ouais, mais en dehors du fait de se faire manger, c'est qu'il est... Voilà, il déjoue totalement, il ne fait que des mauvais choix offensifs. Alors par contre, en défense, il est royal. Hein. D'ailleurs, il a le record de compte sur une finale, mais complètement en dessous, au tiers, c'est une catastrophe. Starks et Derek Harper sont vraiment très très bons, ils se bataillent. Et quand on voit le match 6 où Starks fait un quatrième carton de folie, on se dit, bon, non seulement ils vont gagner, mais en plus il va repartir avec le titre de MVP. Donc, et puis donner le titre à New York, et puis je trouve que voilà, c'est un peu dur. En plus, c'est un joueur affectif, il est attendrissant avec ses pétages de plomb et tout. J'ajoute juste une petite chose, Starks reste quand même, il a une performance quand même à son actif, c'est qu'il a quand même fait jouer Jordan. Certes, il a perdu la série, certes, c'est les Bulls, mais il a quand même fait, en 93, la série Jordan n'a jamais été aussi mauvais qu'en 93 contre les Knicks. Au tir, hein, je parle. Après, il met quand même 54 points au match 4.
Il a laissé peu de moyens.
Et il fait triple-double et tout, mais en termes de pourcentage au tir, il était dans une carafe totale. Et en plus, on voyait qu'il était touché dans la tête. C'est-à-dire que Starks le faisait péter un plomb. Même dans le match 3, il fait 3 sur 18, je crois. Jordan, les Bulls gagnent. Hein. Il fait 11 points, 11 rebonds, 9 passes, 11 passes, 9 rebonds. Enfin, il frôle le triple-double, mais dans le tir, il est pas dans sa mécanique. Et je trouve que ça, faut quand même accorder ce mérite à Starks. Bon, après, il s'en est pris 54 au match 4. Des petits problèmes de trucs. Voilà, John Starks a cité. Mais par exemple, si on me dit on a le choix entre mettre le maillot de John Starks ou mettre le maillot de Carmelo, il n'y a pas une demi-seconde de photo pour moi. Enfin, clairement pas. Et j'ai trouvé un petit peu dur d'ailleurs qu'on libère ce numéro 3 très facilement.
Ouais. Oh, bah après, il y a eu Tim Hardaway Jr.
Marbury aussi. Mais c'est quand même 8 saisons. C'est vrai qu'il fait la majeure partie de sa carrière au Knicks. Il arrive au Knicks un peu par un coup de chance. Parce que à l'issue d'un training camp, il se retrouve à être blessé, donc plus pouvoir être coupé. C'est le joueur de l'ombre. Il va quand même réussir à avoir une sélection All-Star, un titre de sixième homme. Mais oui, ça se joue à pas grand-chose, un tir loupé et t'en deviens une des légendes. Et oui, tu as ton maillot retiré au plafond du Garden avec peut-être d'autres. C'est sûr que ça se joue à 3 fois rien, pas suffisant.
C'est de l'affectif, il est aussi du fait qu'il ne soit jamais drafté. Il a un parcours atypique. Quand il arrive, il commence par Golden State, c'est ça ?
Ouais.
Si je ne dis pas de conneries. Après, il galère avant de retrouver un club. Alors qu'il passe, il vient à New York et après, il se fait sa place, tu vois. Donc, c'est vraiment le gars qui travaille, qui se donne au mal, qui est à fond en défense et en attaque. Mais bon, je pense qu'il est quand même un cran en dessous de tous ceux qu'on a à citer.
Et mine de rien, aussi un stat qu'on a un peu tendance à oublier, enfin, c'est celui qui a mis le plus de 3 points dans la franchise, quoi. Donc, on parlait d'Alan Houston, on parlait de Melo, il y a eu des joueurs qui ont scoré derrière la ligne. Bah, c'est quand même John Stark le meilleur, celui qui a foutu plus de 3 points all-time des Knicks, quoi. Donc, c'est à la fois de la longévité, mais quand même, quand il fallait mettre des 3 points, il arrivait par moment à les mettre. Il en a manqué pas beaucoup pour changer de catégorie de joueur. C'est dommage.
Ouais. Ça reste un joueur iconique et pour notre génération, c'est un joueur plus iconique que, je crois que c'est Julien qui le disait, que Carmelo ou que d'autres. Hein. Pour moi, vraiment, c'est un joueur iconique quand même. Hein.
Ouais, je suis vraiment d'accord. Anthony, tu t'es pas exprimé sur John Starks et en même temps, dès que tu auras fait part de ton retour justement sur ce joueur-là, si tu pouvais nous citer peut-être un dernier joueur avant de rentrer dans le concret, si on avait un autre en tête.
Je rejoins un petit peu tout le monde. Hein. Un joueur iconique, un mec qui sort de nulle part. Il est devenu très vite le chouchou de Riley, hein, au final. Joueur assez irrégulier aussi. Dans le style de Sprewell, c'est-à-dire du niveau caractère, c'est-à-dire un mec qui se donne à fond, qui met le Garden en feu, mais qui peut passer à côté d'un match très facilement, qui peut péter un câble aussi, parce que ça l'a beaucoup déjoué dans sa carrière, je trouve. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 93 aussi, justement, contre les Bulls, où il met un coup au ballon direct parce qu'il n'en peut plus de l'arbitrage qui a un petit peu pro Jordan, hein, faut l'avouer.
C'est possible, ça? Tu déconnes?
Je trouve qu'on est très dur avec John Starks de manière générale. On lui met la défaite des Knicks, justement, je viens en parler, la défaite des Knicks en 94. Alors, ok, il se rate, il fait un match de merde en 80, enfin, le game 7. Mais c'est dur de lui mettre la défaite sur le dos, quoi. La série s'est jouée avant ce match 7, de toute façon. L'équipe, plus ou moins, est responsable. John Starks n'est pas le chat noir. Hein.
Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, je l'ai dit tout à l'heure et je reconnais que de toute façon, c'est pas le franchise, donc tu peux pas incomber à John Starks de perdre. Ouais. Maintenant, c'est vrai que dans l'imaginaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort. Après, quand tu prends un peu de recul, c'est pas de sa faute.
C'est quand même, enfin, je trouve qu'il s'est bien adapté avec l'arrivée d'Alan Houston, où John Starks devient sixième homme. Il est sixième homme de l'année, si je me trompe, en 96-97. Il y a quand même une force de caractère pour se dire Alan Houston, il est peut-être meilleur que moi. Moi, je suis sur la pente, je suis sur le déclin. On va laisser couler. 98. C'est la fameuse blessure de Pat Ewing à John Starks, avec un petit peu tout le monde, Larry Johnson, Alan Houston et compagnie. Starks, il a énormément apporté à ce moment-là aussi. C'était quand même sa dernière année à New York.
Et contre Miami, c'est... Ouais, contre la série contre Miami, c'est le meilleur. Hein. Incroyable. Il est incroyable. Ah, ouais. En termes de justesse... C'est peut-être une de ses meilleures séries en termes de justesse, hein, je parle. Peut-être pas au niveau statistique, j'ai plus le souvenir, il doit être à 16, 18, 20, je sais pas. Mais en termes de justesse, il joue extrêmement juste. Et c'est contre Miami, et encore une fois sans l'avantage du terrain, et encore une fois, tu vas gagner à Miami, et il a des séries. Il est, enfin, franchement, en plus, dans le dernier match, il le met titulaire. Donc non, franchement...
Justement, le transfert contre Sprewell, Starks aux Warriors, il n'était pas dégueulasse hein, pour sa première année là-bas.
Mais il s'entendait pas avec Donaldson.
Très fiable au niveau du shoot, mais il a servi de mentor à Jamison, qui était rookie à ce moment-là. On oublie aussi un petit peu son transfert à Chicago.
Il faut l'oublier. Il a fait très peu de matchs, il a fait quoi Est-ce qu'il a fait des matchs?
Il a fait moins de 10 matchs, c'est clair.
Ceux qui l'ont vu jouer avec le maillot des Bulls, c'est très très collector. 4 matchs.
C'était le pire ennemi. C'était pire que Dennis Rodman hein, pour faire venir John Stark. C'était... Non.
La punition ultime, quoi. Et après, au final, il a fini où? Chez les Mormons à Utah. À Utah.
C'est ça. Mais ce qui est, tu vois, ce qui est curieux, c'est qu'à Chicago, quand il est arrivé, il s'est fait huer, évidemment, il était haï, c'était impossible à lui pour jouer, même, il disait que c'était dur pour moi de jouer, mais il s'est donné à fond. Dernier match, je crois, le United Center, il était à 30 de l'encourager, hein. C'était un changement assez spécial, et il l'a apprécié, mais bon, il voulait quand même se barrer, hein, ça... Rester à Chicago, c'était pas possible pour lui. Et non, pour en venir vraiment globalement à sa période Knicks, moi, c'est un joueur vraiment important dans l'histoire, mais plus aussi un coup de cœur qu'autre chose, quoi. Carmelo Anthony, moi, sa meilleure action, c'est son moonwalk. Il était à Denver pendant la baston en 2006. Je sais pas si vous vous souvenez.
Un beau petit pas de danse, ouais.
Ouais. Ça, c'était,
ça voulait dire beaucoup de choses.
Une façon de se mettre en retrait, de ne pas assumer ses gestes finalement.
Ah, ouais, effectivement. C'était un fumier.
Et la transition est toute faite. On parlait de fumier, mais on parlait dans le tempérament.
De moonwalk.
À retenir de soldats de l'épopée 94, Charles Oakley et puis Anthony Mason, quoi. Donc, on ne peut pas non plus sauter la liste sans évoquer ces deux soldats-là.
Oakley, qui était un peu dégoûté de partir des Bulls de Jordan quand il est arrivé, mais qui a été un gros soldat chez nous. Mason, un chien fou total, et pareil, qui mettait la tête là où moi je ne mets pas le pied. Et c'est des joueurs qui ont. Voilà, c'est la nasty un peu des années 90, celle où on a tous grandi. Et Wynn, Starks, Oakley, Mason, tu vois, tu penses à ça, tu penses aux Knicks, quoi. C'est un peu les plus belles années que nous, on a vécues, en tout cas en tant que fans. Les années 70, on n'était pas nés. Et c'est des joueurs majeurs, quand même. Enfin, c'est des joueurs iconiques, comme Starks, comme Ewing. Voilà, c'est des joueurs qui ont apporté tout de suite à l'équipe ce côté un petit peu dirt, ce côté un petit peu nasty. C'était un petit peu les bad boys après les bad boys. Il y avait les bad boys des Pistons. Et puis après, il y a eu un petit peu les bad boys des Knicks, à un degré moindre, quand même.
Autrement, après, dans les années 70 aussi, il y a eu des joueurs qu'on a, enfin, nous, tendance naturellement à oublier parce que.
Dave DeBuscher,
des Bill Bradley, des Earl Monroe.
Dick Barnett.
C'est des. Dick Barnett, hein. Effectivement, qui a son maillot retiré au plafond du Garden. Hein, donc là.
Il y a Rich Figuera aussi.
Dick McGuire. Et Earl Monroe.
Earl Monroe. Qui venait de Washington, qui avait été en finale, qui avait passé les Knicks et qui se retrouve après finalement à revenir jouer aux Knicks. Donc, il y a eu aussi de très bons joueurs dans les années 70. On les connaît moins, on les a moins vus jouer. C'est plutôt des images vintage. Pour une équipe qui était avec un niveau de jeu très, très homogène, il y avait quand même beaucoup de bons joueurs dans ces effectifs-là. On a tendance à les oublier. Ils ont leur place bien inscrite, je pense, je trouve aussi dans les livres des records. Mais on y pense moins, et c'est aussi lié à l'époque. À l'époque où il y avait moins de médiatisation, où les images qu'on a aujourd'hui sont plus difficiles à regarder parce que c'est un autre basket. C'est quand même un très beau basket, et c'est une équipe qui a dominé sa conférence à sa façon, en se retrouvant plusieurs années de suite en finale, que ce soit en finale de conférence, soit en finale NBA. C'est dire aussi le niveau de ces joueurs.
Moi, j'ai une petite dernière mention. Un joueur qui a ramené une certaine hype début des années 2010, c'est Amare Stoudemire.
Ah, c'est vraiment trop juste, lui.
Regardez. Mais Amare Stoudemire, quand il arrive, quand même, fait quand même.
Ouais, il redonne un petit coup de boost médiatiquement parlant, mais.
Un petit coup d'allant.
C'est pareil, trop court.
Il est clairement en dessous. En plus, il s'est blessé et tout. Mais l'année où il tourne sa première saison, il est à 24, 20 ans, je ne sais plus. Il est quand même là. Il fait quelque chose d'intéressant. Il remet un petit peu New York dans le côté présent, hype.
Fichu extincteur. Ouais, voilà. Aussi. Mais non, les genoux en mousse, ça a été trop court, quoi. Ça a été trop court. L'association avec Melo, elle a pas vraiment fonctionné. C'était de la hype, c'était le Knicks Arbach. Il dégageait quelque chose, mais au final, dans les résultats, dans la longévité, dans ce qu'il va laisser, finalement trop peu, quoi.
Ouais, et puis après, tu parlais de hype. En termes de hype, moi, je fais la bise à Stéphane Marbury, évidemment. je fais la bise à Marcus Camby, comme ça, je pense avoir fait le tour. Et sinon, Anthony, tu as deux, trois petits noms comme ça.
Il y a Larry Johnson.
Et oui, grand mama. Ouais, Larry Johnson, ouais. Même si, pareil, le dos qui suivait plus.
Ah ouais, c'était plus du tout le Larry Johnson de Charlotte, mais il a réinventé son jeu. Après, c'est vrai qu'il était un petit peu irrégulier son arrivée au Knicks. Il était quand même un peu décevant, hein. Faut le reconnaître. Après, par contre, c'est à partir du moment où Ewing est blessé, comme tous les autres joueurs, il a augmenté son volume de jeu. Quand même, le shoot contre Indiana au Game 3, c'est
énorme.
l'image du Garden qui explose là, ça c'est ça te reste dans la tête pour jusqu'à la fin de ta vie, ça c'est obligatoire.
Tout, puis même la célébration, le discours d'après-match, enfin une folie quoi.
C'était fantastique quoi. Sinon comme nom, bah, j'ai Andrea Bargnani moi.
Qui ça?
Andrea Bargnani.
Ah, c'est un pizzaiolo non, c'est pas. Ouais, il y a Eddie Curry aussi, Tanguillet, Jerome James.
Alors, pour rester sérieux, bon, il est resté qu'une saison, mais il y a Xavier McDaniel.
Ah, oui, ouais. Mark Jackson.
Jackson, j'y avais pensé aussi, ouais, ouais.
Mark Jackson, Rookie of the Year, Mark Jackson. Donc,
oui, tout à fait, ouais.
Ça a démarré bien.
Fort sympa, ça... Faiblesse à nous, c'était depuis très longtemps, ça a souvent été les meneurs de jeu. Donc, on a eu Charlie Ward, qui était un des meneurs les plus faibles, on va dire, de la ligue à ce moment-là, même si c'était un excellent défenseur, par contre.
Avec Chris Childs, ouais, en père.
Childs aussi, ouais.
One Punch Man.
Derek Harper, qui venait de Dallas, bon, qui était sur sa fin de carrière aussi, mais qui a plus que tenu la baraque sur les playoffs.
Ah, il a été pas mal en finale. 93,
94 hein, aussi. Hein. Ouais.
Jamal Crawford.
Oui, Jay Crawford.
Son match contre Miami où il met 52, où il fait un 16 sur 16 là.
Ah oui, ça c'était bien ça.
En 2008.
Ouais, c'était pas les meilleures années, mais il arrivait à avoir ses petits éclairs, oui, ses crosses et tout. C'était un joueur aussi qui avait une esthétique très particulière et très appréciable.
La bise à Isaiah Thomas. Messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour. On va commencer à rentrer là dans le concret. Ah bah oui, le 3.
Le top 3.
Donc, alors, je ne mets pas d'ordre parce que...
Zane Tabak.
Parce que bon, ça reste totalement subjectif. Mais en gros, il nous reste évidemment Walt Frazier qu'on n'a pas du tout évoqué. Il nous reste Willis Reed. Il nous reste Patrick Ewing. On a quand même évoqué Earl Monroe, je le garde sous le coude quand même, mais voilà, là les trois noms qu'on n'a vraiment pas cités, Walt Frazier, Willis Reed, Patrick Ewing, on est bien d'accord, ça joue entre tous les trois messieurs.
Évidemment.
Moi je vois évidemment. Pas qui on pourrait venir titiller ce podium. Quand on pense aux Knicks, effectivement, il y a au moins ces trois noms-là qui reviennent pour différents aspects. C'est des joueurs qui ont un sacré palmarès, alors certains ont des bagues. Un autre n'en a pas, mais il y a des records, il y a des images, il y a des faits marquants, il y a des choses qui restent dans l'inconscient des gens quand on pense aux Knicks. Donc oui, forcément. Puis il y a des personnages comme Walt Frazier qui sont toujours présents, qui même des années et des années après avoir pris leur retraite, sont toujours incarnent d'une certaine façon l'image des Knicks. Tu penses aux légendes, tu vas citer ces trois-là quoi.
J'en avais un autre moi, mais c'est pas un joueur.
Vas-y Anthony.
C'est un coach.
Ray Dolzman.
Ah oui, alors dans les coachs aussi, on aurait... Il pourrait y avoir discussion, même si c'est le coach champion, quoi.
Moi, je suis d'accord avec Laurent, c'est mon top 3 aussi. Après, peut-être pas dans le même ordre pour tous.
De toute façon, pour être top 3, il faut quoi? Il faut des sélections All-Star, facile. Il faut avoir son maillot retiré au plafond du Garden, parce que là, c'est la consécration. Si t'as ton maillot, c'est que t'es un joueur qui compte. Si t'as des titres de champion, c'est pas mal. Si t'as des trophées de MVP, c'est pas mal. Si t'es Rookie of the Year, ça peut aider. Bon, quand on parle de ces trois-là, presque tout le monde remplit ses critères. Quand je dis presque tout le monde, vous me voyez tourner autour du pot. Patrick Ewing, ce qui manque, c'est les bagues. C'est les bagues, ou même ne serait-ce qu'une bague. Après, il fait partie de la génération de Jordan. Il a été un peu contrarié par rapport à tout ça. En 94, il pensait pouvoir la décrocher. Ça s'est joué à pas grand-chose. On l'a dit tout à l'heure, hein. Un tir de Starks qui se fait contrer et il aurait pu le remercier à jamais. Mais du coup, oui, forcément, faut ces critères-là. Donc pour vous, qui vous metteriez, si on devait désigner un GOAT, ça serait qui?
Allez, on va commencer par Juju, vas-y.
Un seul nom. Et tu développes si tu veux.
Un seul nom. Non, je vais dire que au niveau du cœur, ça serait Ewing, mais la raison, ça serait pour moi Willis Reed. Si je te dis aujourd'hui qui est mon GOAT, c'est Willis Reed. C'est le seul MVP, enfin il est MVP, deux titres de champion. J'étais un guerrier. Voilà, pour moi, Willis Reed, il coupe les cases. Et je me suis penché sur sa carrière vraiment sur ces deux dernières saisons. C'était vraiment un joueur extraordinaire. Le mec contre les Lakers, il joue blessé. Tu le vois, hein, il n'est pas blessé. Ouais. Il ne peut pas marcher, le gars. Il fait un match, alors il ne fait pas 30 points, mais il ne peut pas marcher. Actuellement, quand tu vois le load management des joueurs NBA, quand ils ont mal aux joues ou qu'ils toussent, voilà, le gars, il est blessé, il n'arrive pas à marcher.
Et il joue en Converse.
Il est là, il est présent, il pète quand même, il joue en commerce en plus, donc il a très mal. Enfin, moi, Willis Reed, il fait bien sûr deux titres de champion, il est deux fois MVP des finales quand même, voilà, sur les nos seuls deux titres, c'est lui qui est le MVP. Il est 7 fois All-Star et puis il est MVP en 70. Aujourd'hui, si tu me demandes d'être réaliste, pour moi, le GOAT...
Il a une carrière plus courte par rapport à Frazier ou Ewing.
Oui.
Ce qui fait que, tu vois, dans les rankings, est-ce que c'est lui qui a joué le plus de matchs marqués, de plus de points, tout ça, bah, il se retrouve un peu en retrait par rapport à ses autres noms. Mais en termes de palmarès, ouais, je te rejoins, en termes de palmarès, c'est aussi le premier à faire... MVP de tous les trophées MVP que tu pouvais choper sur la saison, MVP du All-Star Game, MVP de la saison, MVP des finales. C'est le premier à faire ça, quoi.
Et puis, il a tout gagné.
Ah, mais en termes de vitrine, de toute façon, c'est celui qui a rempli toutes les cases. Hein.
Il a eu des confrontations, des oppositions avec des joueurs tels Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar. Bon, le parcours pour choper la bague, il était sympa, quoi. Donc, l'opposition à son poste, alors que c'était pas un pivot à très, très grand, en fait.
Il fait 2-8, c'est exactement ce que j'allais dire. Il fait 2-8. Le mec, il était quand même dur au mal.
Ah, ça pourrait être dur.
Voilà, il arrivait à imposer avec sa table.
Non, puis effectivement, c'est aussi ce qu'on retient de lui quand tu penses Willis Reed. Bon, il avait un style aussi, hein, il avait une prestance assez particulière. Mais un vrai buffle, quoi, le mec vraiment tanké, quoi. Bah, c'est ce fameux match où ce Game 7, des frises générales, qui est-ce qui arrive ? Oh bah Willis Reed. Bon, au final, il y a beaucoup de romance autour de ce match parce qu'il va être présent, il va montrer à ses coéquipiers qu'il est là, coûte que coûte, pour soutenir l'équipe. Il va pas faire un très grand match, hein. Il va scorer les premiers paniers et puis derrière, c'est Frazier qui fait le taf. Hein, mais
Après, c'est sûr que si tu parles statistiquement parlant, Ewing, il est en tête de toutes les statistiques de l'histoire des Knicks. Et après, on parle de la hype. On a Monsieur Frazier, qui est quand même un joueur avec sa hype. Et c'est un commentateur extraordinaire, je trouve. Et puis, il a des costards fantastiques de jouer. Et moi, aujourd'hui, si j'ai mon top 3, je donnerais Reed, Ewing, Frazier. C'est l'ordre que je donnerais.
Ok, on va quand même laisser la parole soit Julien, soit Anthony, parce que là, il est l'heure de se mouiller, les gars. Donc, qui veut se mouiller sur un nom ?
Le top 3, je l'avais déjà bien en tête avant le podcast. Et en fait, je ne peux pas dissocier ni Frazier et Willis Reed. Je ne peux pas les séparer. Moi, c'est un duo qui a porté le titre en 70 et en 73, avec Holtzman en coach, bien sûr. Je ne peux pas les séparer. Ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un duo. Il n'y a pas pour moi un GOAT en particulier à New York. C'est ce tandem. Et Wing, c'est autre chose. Pas mal de ratés en playoff. Il y a des zones d'ombre, on va dire. Quand il y a eu la fameuse Wing Theory de Bill Simmons qui disait que...
Il y avait plus sans lui qu'avec lui, quoi.
Ouais, non, ça c'était un peu n'importe quoi aussi, mais il y avait du vrai dans un certain sens, parce que forcément New York jouait plus rapidement, mais ça gagnait pas pour autant, hein, faut pas non plus exagérer. Il y a quelques petites choses autour de Ewing qui font que pouvait manquer, je trouve, de leadership. Pour moi, c'était pas vraiment lui le leader, on va dire, dans les vestiaires, je pense pas que c'était lui. D'ailleurs, je crois que Charles Oakley l'avait dit récemment. Bon, lui, il dit souvent des trucs aussi assez salaces. Quelque temps, il dit pas mal de conneries. Il aime bien défoncer ses anciens partants. Mais Ewing, il a quelques casseroles, je trouve, au derrière, quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà, moi, mon classement serait Frazier, Reed, égalité, Ewing juste derrière. Et pourtant, Patrick Ewing, il fait partie, franchement, je pense, de mon moins minimum de mon top 10 all-time en termes de coup de cœur.
Ouais. Donc là, c'est... Tu t'es mouillé, mais...
À moitié. C'est les farcis à moi, Reed et Frazier.
Ah, ouais. Alors, si tu me demandes d'en choisir un, je vais mettre légèrement... Frazier.
Ah, on t'en voudra pas. On t'en voudra pas.
Toi, tu aimes la sape, c'est pour ça.
Il y a Ju qui disait qu'il adorait Walt Frazier en tant que commentateur. Moi, je l'aime pas du tout, donc tu vois.
Oh, moi, je l'adore, moi. Oh,
J'ai du mal avec sa voix. C'est sa voix qui
me. J'adore. Ouais, mais il a ce côté. Je sais pas, il a un côté kitsch nonchalant que j'adore. Enfin, je sais pas. Après, c'est. Ouais. Les couleurs, mais franchement, pour avoir écouté d'autres équipes, je trouve qu'à New York, comment on a ça, c'est que nos commentateurs new-yorkais, quand même parmi le gratin des commentateurs, et Frazier est vraiment mon top Drexler ou d'autres.
La comparaison est difficile. Ok, bah, au moins on a réussi à te décroter un top 3 en bonne et due forme. Et Julien, du coup, alors toi, il est l'heure aussi de se mouiller.
Alors, on va dire, je vais développer, ça va être un petit peu technique. Je mettrai en GOAT Patrick Ewing. Je mets en meilleur joueur de New York Willis Reed et Walt Frazier. Je suis d'accord, ça se distingue pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est comme Magic et Kobe chez les Lakers. C'est-à-dire que pour moi, Kobe est le meilleur Lakers de l'histoire, celui qui représente le mieux la franchise. Mais je mets Magic devant dans un classement all-time. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, Ewing représente parfaitement les Knicks, avec tout ce que ça comporte, la lose, la difficulté, les, voilà, l'irrégularité dans les moments, la poisse, tout ça. Mais voilà, dans un classement all-time, je mets clairement Willis Reed et Wolf Rager devant. On a parlé du palmarès de Willis Reed, qui a tout gagné. Effectivement, maintenant, il faut quand même toujours recontextualiser les choses. Et c'est ça qui est très intéressant. Et Willis Reed est un des meilleurs exemples possibles. C'est-à-dire que Willis Reed, il a donc... évidemment, le titre de MVP des finales de 70, le premier, sauf qu'il joue 5 matchs sur une série de 7, en ratant le dernier, parce que le dernier, il met 2 minutes, il met 2 paniers et basta. Et à côté de ça, on a Wolf Rager qui fait un match de déglingo, peut-être un des plus grands game sets de l'histoire. Je pense qu'à part LeBron 2016, personne ne peut venir discuter.
Il fait 19 passes, quoi. C'est dingue.
Ouais, enfin, il fait 36 puis, points, 19 passes, 7 rebonds.
À une époque où t'as pas la ligne à 3 points, quoi.
Ouais, il 36 points, et puis il a un pourcentage de déglingo, et il a aussi 5 interceptions. Enfin, c'est juste délirant. Hein.
Il était partout, il jouait sa bague.
Ouais. Voilà, il va la chercher. Donc déjà, ce premier titre de MVP à discuter, et pareil pour celui de 73. Hein. Celui de 73, s'il revient à Wolf Rager, c'est pas du tout un scandale. Voilà. Donc, voilà, même Horn Monroe aurait pu l'avoir aussi, enfin bref. Donc, bon, c'est vrai que les histoires de palmarès, c'est toujours un petit peu ça. Mais par exemple, quand on regarde celui Magic qui a le titre de MVP en 80 pour son match 6, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi Wolf Rager n'a pas eu en 70 pour son match 7. Bon, voilà, ça c'est parenthèse refermée. Après, Ewing, il est arrivé, il était vraiment seul. Je veux dire, New York, quand il est arrivé, c'était pas Willis Reed, il a quand même eu Wolf Rager à côté de lui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Willis Reed... il a eu un joueur, un Hall of Famer à côté de lui, clair, net, indiscutable. Wolf Rager, c'est vraiment un blaze NBA historique. Enfin, je veux dire, tu prends tous les top 5, tous les top 50 all-time de n'importe qui, même, je pense que même Bleacher qui raconte des conneries, je pense qu'il le met dans les 50. Voilà. Par contre, le meilleur joueur avec lequel a joué Patrick Ewing pendant son prime, ça joue entre Charles Oakley et John Starks.
C'est des joueurs vaillants, des joueurs, des bons lieutenants, mais c'est pas des All-Stars réguliers non plus.
C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que Willis Reed, il a quand même cette chance-là qu'il faut quand même prendre en compte. Après, il a les bagues. Après, il a les bagues, et ça, je sais que c'est très important. Moi, j'en fais partie. Et plus que les bagues, je pense que plus que les bagues, ce qu'il joue contre Ewing, c'est que l'année où il aurait dû l'avoir, c'est lui qui merde. Et ça, ça change tout. Si il avait fait une bonne finale et qu'il perdait, et qu'il avait été monstrueux, voilà, parce qu'il y a quand même son game 7 contre Indiana où il est déglingo, voilà. S'il avait fait une très bonne finale et qu'il avait perdu, je pense que ça serait passé. Le problème, c'est que c'est lui qui foire. Enfin, faut les voir, les matchs. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose, c'est incompréhensible. Toute sa carrière, le mec, il joue d'une façon, et arrivé en finale contre le meilleur joueur du monde, il se dit, bah tiens, je vais changer de jeu.
On disait tout à l'heure de pas culpabiliser John Starks par rapport à ça. Le franchise player des Knicks, c'est pas terrible. Il a un duel face au Lonzo Wood qu'il avait gagné 10 ans avant en finale NCAA. Bah là, c'est le retour de bâton, mais dans le mauvais sens, quoi. Donc,
clairement, la différence est grande.
Et puis New York récupère l'avantage du terrain au match 2. Enfin, c'est... Je veux dire, ils sont dans les meilleures conditions possibles, hein, franchement. Et puis, on parle de roster, on regarde le roster des Rockets, il n'y a rien de fou. Hein.
Ouais.
Il y a Olajuwon, c'est clair, qui est dans un autre monde. Mais après, le reste, poste pour poste...
Ouais, c'est des équipes assez comparables, en fait. Il y a un joueur star d'un côté, et après, de très bons lieutenants.
Voilà, je veux dire, Harper Starks contre Kenny Smith et Vernon Maxwell... moi, personnellement, je prends Harper Starks. Hein. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas photo, quoi. Bon, après, t'as le Charles Smith, c'est sûr. C'est un peu handicapant.
Après, si on est honnête entre nous, on n'a jamais vu... Enfin, moi, perso, j'ai jamais vu jouer Reed, Frazier et tout. Et c'est pour ça que l'affectif, comme reste important, c'est pour ça qu'on parle de podcast et tout, c'est l'affectif des Knicks. Moi, je sais que l'affectif, honnêtement, je mérite devant, mais l'affectif restera sur Ewing.
Alors, je pense que Patrick Ewing, il a le côté iconique, emblématique. Pour un GOAT, c'est quand même compliqué de dire c'est le meilleur joueur de tous les temps. c'est pas lui qui a gagné les bagues, quoi. Enfin, il a pas de bagues. Les Knicks des années 70, c'est quand même plusieurs finales des années de suite. Alors oui, le contexte était différent, la concurrence sûrement différente, il y avait moins d'équipes.
À 73, New York a une chance inouïe avec la blessure David Cech en playoff.
Non, mais bien sûr, bah, il y a toujours une part de chance ou de malchance pour être champion NBA. Hein.
Ça fait partie d'un bon parcours.
Ça fait partie d'un bon parcours. Toronto le dira l'année dernière.
Bien sûr, mais les Celtics de 73, voilà. Celtics de 73, ils font 68 victoires. Hein, donc
faut les circonstances favorables pour pouvoir les passer. Mais ils les ont passés quand même. Ils ont récupéré ce deuxième titre. Alors, il n'y a pas de back-to-back et tout, mais quand même, voilà, c'est. Moi, le cœur me fait pencher pour Patrick Ewing, quoi, voilà, parce qu'il représente tellement de choses pour la franchise. Mais je me dis, mince, non. À côté, tu as des joueurs qui ont gagné des bacs, qui ont du palmarès. Oui, sur les finales 70, le match 7 de Frazier, le titre de MVP aurait pu leur venir là-dessus. Enfin, c'est lui qui porte l'équipe jusqu'au bout, quoi, jusqu'au titre.
Ouais.
Mais au final, c'est quand même Willis Reed qui est entre guillemets le leader, qui représente le captain, quoi, c'est son surnom. Donc moi, si j'ai un classement à faire, je mettrais en 1 Willis Reed, 2 par le palmarès, même si la longévité de la carrière est un peu plus courte, en 2 Ewing, le cœur, et puis voilà, et en 3 Frazier. Allez, je les sépare, moi, les deux des années 70.
Bon, et moi je vais mouiller aussi le tour un peu de la question, mais oui, pour moi, en 1, c'est Walt Frazier. Pour moi, c'est...
La hype, Laurent, il est dans la hype.
C'est le chef d'orchestre. Voilà, il fallait vraiment quelqu'un pour huiler un peu tout ce petit monde. Et c'est l'équipe qui, pour moi, à cette époque-là, pouvait faire une très bonne NBA All-Time Team, quoi, très clairement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le visage. Alors, hors évidemment stat de Willis Reed, mais c'est le visage vraiment de ces deux épopées-là, quoi. Walt Frazier, et puis après évidemment tout ce qui est à côté, c'est quelqu'un qui est toujours présent, son icône, ses chaussures très célèbres, il est ses tourneurs de phrases, ses co-stars, ce qu'il peut représenter en termes d'image de la culture basket à New York. Il est vraiment présent dans la ville et ça se ressent, quoi. Donc en termes d'impact culturel, je trouve que Walt Frazier, pour moi, est un très beau visage de la franchise. Après évidemment Pat Ewing, parce que Le fait de l'avoir vu évoluer, ça me touche évidemment. Et après, là, je rejoins Anthony sur l'aspect un peu sentimental, le côté un peu loose que pouvait représenter cette époque-là, la franchise. Il incarne tout ça, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui aura porté la franchise au bout des stats, ça se voit, quoi. Il aura laissé ses deux genoux et quelques larmes pour la franchise. Il est malgré tout, voilà, reconnu à juste titre avec son maillot qui est accroché. On aime dans la blague dire que pour vraiment être avoir son maillot accroché, les critères de soit avoir une bague ou soit s'appeler Patrick Ewing, quoi. Et puis en 3, Willis Reed, Willis Reed, c'est la vitrine, mais la vitrine côté des trophées qui est garnie. Après, c'est difficile de dissocier ces deux joueurs-là, quoi. Walt Frazier et Willis Reed, c'est les mêmes combats et chacun avec leur qualité. Mais voilà, en termes de régularité, pour moi, c'est du Walt Frazier.
À noter que Patrick Ewing est rookie de l'année en jouant que 50 matchs. Donc c'est le record pour le moins de nombre de matchs joués pour être rookie de l'année.
Et puis, on va aussi parler du futur. On sait que Kevin Knox...
Kevin qui ? Ouais, je pense qu'il faudra beaucoup de temps et beaucoup de beaux résultats pour qu'un joueur dans l'avenir vienne titiller ces trois grands noms-là. Même si au final, on se rend compte qu'on a quasiment des podiums différents à chacun de nous. Ouais, il va falloir quand même de sacrés exploits et une belle longévité pour pouvoir venir inscrire son nom dans ce gratin-là, quoi.
Messieurs, là-dessus, un dernier mot de la fin, peut-être Joanny.
Écoutez, on a beaucoup parlé du GOAT, finalement on se rend compte que le GOAT c'est pas un débat si évident, on le savait déjà au niveau de la NBA, mais si on le recontextualise au niveau d'une franchise, on voit que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, et forcément l'affectif, la façon dont on a apprécié tel ou tel joueur, dont on connaît l'histoire de tel ou tel joueur, ça joue beaucoup, finalement, le GOAT, je pense que chacun a son GOAT. même si au final la sélection pour une franchise comme l'Enix, bah, on voit qu'elle tourne autour de quelques noms, mais je suis sûr que les personnes qui vont nous écouter auront leur propre avis et leur propre, propre goût, et on sera ravis de pouvoir échanger avec eux. En tout cas, je pense qu'on a passé un bon podcast pour échanger autour de tout ça, de tous ces joueurs marquants. Et il y en a encore tellement d'autres qu'on pourrait en faire des heures et des heures de podcast.
En tout cas, c'était un réel plaisir bah, d'avoir pu débattre. Un grand merci donc à Julien Muller.
Bah, merci, hein. Merci pour l'invitation, pour la discussion, enrichissant comme d'hab. Peut-être qu'un jour, on attend juste que ce podium soit bousculé. Je vous cache pas qu'à mon avis, on va attendre un petit peu, mais pourquoi pas. Peut-être, je sais pas, RJ Barrett. Non, je déconne. Je sais pas, on verra. On y croit en tout cas, on aimerait bien.
C'est bien de rester dans cette note d'optimisme.
Voilà, ouais, oui, mais ça va tourner, mais bon.
Faut être patient, la règle des 3P. Patience, patience, patience. Voilà. Merci à toi. Et Anthony, un grand merci aussi de nous avoir fait part de ton avis. C'est très, très agréable de t'avoir avec nous.
Et à vous, c'est un plaisir également.
Plaisir partagé. Et merci Juju. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johnny.
Merci, et Laurent.
Et écoutez, pour rester justement sur cette note d'optimiste, un grand sage disait « Nix un jour, Nix toujours ». Les gars, on est toujours ensemble. Et voilà, on reste toujours dans l'espoir qu'on puisse voir nos Knicks aux portes des playoffs. C'est voilà. On va faire preuve de patience. Et en tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à nous donner des retours positifs sur notre podcast. Restez fidèles, on se tient au jus et passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée à vous. Merci, à très bientôt. Bonne fin de journée.
Bye bye.
Ciao.